T'inganni se pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans les passages sur Radio Esprit Occitanie et de retrouver Léo à la technique. Aujourd'hui, l'émission est un peu particulière. J'ai le grand plaisir d'accueillir Andrés Atanza, que je n'ai pas besoin de présenter. Vous, auditrices et auditeurs fidèles, vous connaissez bien le serviteur de l'émission Sentinelle d'Humanité. Bonjour Andrés.
Bonjour Bertrand.
Merci d'avoir accepté cette invitation qui me tenait très à cœur. Alors, elle me tenait très à cœur parce que, en effet, il y a un an, en février 2023, c'est toi qui m'invitais à Sentinelle d'Humanité pour parler de mon livre « Mystère néandertal à Bruniquel, le propre des femmes ou le pouvoir de la mère ». À la suite de cette rencontre, vous m'avez proposé de devenir à mon tour animateur d'émission pour inviter tous ceux qui écoutent Esprit Occitanie à voyager dans les passages. Donc aujourd'hui, 9 février 2024, je voulais souffler la bougie des 1 an de cette émission en ta compagnie. Partager avec toi la confiance dont vous m'avez témoigné et qui oblige. Qui oblige parce que, quand on écoute ceux qui souffrent, on ne peut que témoigner de la complexité des processus d'humanisation. Ce sont des processus jamais acquis et il me semble qu'on se déshumanise plus vite qu'on ne s'humanise. Qu'en penses-tu ?
Alors, parce que là, il y a une grande vérité. Et pour marquer cette nécessaire humanité que nous devons convoquer à tout instant, je suis allé chercher un des penseurs espagnols qui a façonné, pourrait-on dire, mon esprit, un de mes maîtres, un ouvrage important du XXe siècle, du philosophe espagnol Ortega y Gasset. C'est un livre qui a été traduit en français, « La révolte des masses », en espagnol « La rébellion de las masas ». Un ouvrage qui a été traduit très très rapidement en France dans les années 50. Et je souhaite lire, mais quasiment je le connais par cœur, le prélude au français dans cet ouvrage. En tout cas, c'est ce que dit Ortega y Gasset. Je deviens quasiment, je pourrais, comme ça, au dépoté, de mémoire. Et le texte, il est là, mais je vais essayer, comme ça. Tant pis si je me trompe, mais je crois que je ne vais pas me tromper. On raconte, sans trop insister sur la réalité des faits, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, que pour les fêtes du jubilé de Victor Hugo, une grande réception fut organisée à l'Élysée. Et bien entendu, on invita les intellectuels, les ambassadeurs des pays amis, de toutes les nations, à rendre hommage au grand poète. Celui-ci, Victor Hugo, en posture solennelle, comme une statue, le coude appuyé au marbre d'une cheminée, accueillait les délégués, bien entendu, des nations, et il y avait un huissier, vous savez, les huissiers qu'on trouve à l'Élysée ou dans l'Assemblée nationale, au Sénat, avec les médaillons, habillés, avec des voix d'autorité. Quand arrive l'ambassadeur représentant de l'Angleterre, l'huissier proclame haut et fort, et Victor Hugo, les yeux en extase, avec une voix de trémolo, répond « Ah, l'Angleterre, Shakespeare !» L'huissier poursuit et arrive le représentant de l'Espagne, l'ambassadeur espagnol. Et là, Victor Hugo, d'un même jeu, « Ah, l'Espagne, Cervantes !» Arrive l'ambassadeur allemand, et encore une fois, l'huissier annonce l'ambassadeur d'Allemagne et Victor Hugo, une nouvelle fois, à l'Allemagne, Goethe. Mais un petit homme s'avance, une allure rustique, et l'huissier lui demande « Mais vous êtes qui, monsieur ?» Et il dit « Je suis le représentant de la Mésopotamie. » Alors, Victor Hugo, qui avait, bien entendu, avec autorité, pris la parole pour l'Angleterre, pour l'Espagne, pour l'Allemagne, hésitait. Les yeux n'étaient pas aussi brillants. Il ne savait pas comment qualifier ce représentant de la Mésopotamie. Et là, le génie de Victor Hugo, « Ah, la Mésopotamie, l'humanité !» Et donc, on voit bien qu'il y a là un esprit universel. Alors, et c'est normal que Ortega y Gasset, dans La révolte des masses, annonce en effet que les révolutionnaires pensaient l'universalité, c'est-à-dire l'humanité. Mais il faut se méfier de ces discours trop généralistes sur l'humanité. Hein. Après, il faut la pratiquer.
Oui, en tout cas, moi, ce que ça fait résonner en moi, c'est tout le travail que j'ai été amené à faire sur les récits mythologiques qui sont nés en Mésopotamie et qui nous permettent, encore au-delà du néolithique, de remonter jusqu'au paléolithique et aux premiers récits avant l'écriture. Donc, je trouve que cette référence à la Mésopotamie est d'une très grande pertinence. Et donc, c'est autour de ces questions d'humanité, qui sont des questions qui te sont chères, Andrés, que je voudrais échanger avec toi. Alors, bien sûr, ça concerne l'animateur de Sentinelle d'Humanité, mais cela concerne aussi le directeur de l'ANRAS que tu as été pendant de nombreuses années, Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire. Nous allons évoquer ensemble la complexité de cette notion d'action solidaire qui nécessite effectivement une recherche permanente. Mais avant cela, tu sais bien que les passages aiment jouer avec la musique des mots. Il y a ceux de la parole qu'on écoute et ceux de l'écriture qu'on lit. Dans les passages, on va à la rencontre de l'infantile et du parental. Alors, on va à la rencontre de nos histoires. Andrés, comment devient-on directeur général d'une aussi grande association, association qui crée des espaces d'humanité ?
Oui, des espaces de solidarité et de fraternité et, bien entendu, d'humanité. C'est toujours du hasard et c'est toujours de la rencontre. En 2014, et pour être précis, fin de l'année 2013, et début d'année 2014, c'était décembre 2013, j'ai pris mes fonctions en 2014, en février. Donc c'est fin d'année et début d'année. C'est une rencontre et un coup de fil d'un collègue en disant « Je connais une association sur Toulousaine où il y a quelques difficultés de gouvernance, de dirigeance. » Des choses assez classiques que l'on retrouve dans les organisations. Et il me dit, peut-être ça peut t'intéresser, tu peux amener un peu de rationalité dans tout ça. Peut-être que tu devrais postuler et rencontrer le conseil d'administration pour qu'il puisse t'entendre de comment tu souhaites travailler. Ça veut dire que ce n'était pas vraiment un examen ou un jury de recrutement, c'était plutôt un échange avec la gouvernance. Disant face aux problématiques diverses de l'association, très complexe, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques solutions, en tout cas de la méthodologie, d'un savoir-faire ? J'avais déjà redressé des associations et j'avais redressé également des institutions d'enseignement supérieur qui étaient en difficulté. Donc, on pourrait dire de façon, je le dis peut-être de façon immodeste, j'avais un savoir-faire sur la situation dite de redressement. Et j'ai fait donc une proposition. J'étais à l'époque à Paris. La vie parisienne est formidable. La vie parisienne, parfois, me manque parce qu'il y a un foisonnement culturel. Mais la vie parisienne est une vie très fatigante, quoi. En fait, vous n'arrêtez jamais, quoi. Vous êtes toujours en représentation. Vous êtes toujours sur le devant de la scène. Et puis, parfois, vous cherchez un peu d'anonymat, pourrait-on dire. Et donc, j'avais fait savoir que revenir dans le pays d'accueil, qui est Toulouse, qui m'avait accueilli. Moi-même, je suis un immigré, comme toute ma famille. Donc, revenir au pays, j'avais mes racines, j'avais une maison que j'avais gardée. Et donc, je débarque à l'ANRAS, cette belle association, donc en février 2014. Voilà.
Donc, tu vois que il s'agit bien, effectivement, de la Mésopotamie de ton enfance.
Oui, un peu, Quand tu viens... Toulouse, c'est ma deuxième ville, quoi. C'est mon deuxième pays, dirais-je.
Et c'est de ça dont on va parler, Andrés. C'est de cette origine de nos racines, comme tu venais de le dire. Alors, les artistes me semblent être des passeurs d'enfance. Je te propose que la voix de Yoon Sun Na, chanteuse de jazz sud-coréenne, nous accompagne durant cette émission. Baignant dans un environnement musical depuis sa petite enfance, elle choisit à 25 ans de venir en France pour vivre de son chant et de la musique, et notamment, effectivement, à Paris. Sa voix sublime, pleine d'émotions profondes, a été vite plébiscitée et reconnue par les amoureux du jazz. Depuis une dizaine d'années, elle habite les passages entre son continent natal et les autres continents. Elle se demande, dans mon cœur à l'intérieur et dans mon cœur à l'extérieur, est-ce que tout est aimable ?
Inside and out is all beloved, and my body, blood and veins is all beloved. How can there be any room for religion, since my heart overflows into beloved? Searching for love, once in a while we feel at a loss, feeling the pain. Once in a while we once you and I are cleansed from you and me. In my heart, inside and out, is all beloved. In my body, blood and veins, is all beloved. How can there be any room for religion, since my flows into beloved.
Lors de nos rencontres, Andrés, tu m'as remis des exemplaires de la revue « Les cahiers de l'Andrés ». Avec le président, Alain Galli, vous aviez écrit en mars 2018 un éditorial dans le numéro 4 consacré à la valorisation de l'utilité sociale et sociétale. Je le lis. Les associations de solidarité du secteur social et médico-social sont souvent considérées comme de simples supplétifs de la puissance publique. Nos associations sont présentées comme des prestataires de services, de simples opérateurs qui répondent aux appels à projets, appels d'offres, appels à candidatures. Elles vivent une concurrence effrénée et on oublie bien volontiers qu'elles portent un projet, une parole politique, où des hommes et des femmes d'horizons divers cherchent à transformer la société, à la rendre plus juste, plus équitable. Nous souhaitons promouvoir un projet de société, défendre des droits humains, proposer des services à des publics fragiles dans une dynamique sociale et citoyenne. Dans le règne de la compétition, de la négation de la particularité des acteurs, face aux nombreux chiffrages et indicateurs qui obstruent le réel, nous vous proposons de penser autrement, de valoriser nos actions et nos engagements. Notre défi est d'offrir à nos partenaires, agences régionales de santé, conseils départementaux, une vision plus qualitative de nos activités. La valorisation sociale et sociétale répond à cet objectif de mieux appréhender la gouvernance, la gestion des activités et la qualité de la prise en charge de l'usager. La valorisation sociale et sociétale est bien de sortir d'une vision techniciste, sortir du carcan financiero-comptable. La valorisation sociale et sociétale, c'est mettre en évidence nos valeurs de justice et d'humanisme. 6 ans ont passé, Andrés. La pandémie du Covid s'est invitée dans ce passage du temps et la vision quantitative a été chamboulée par le « quoi qu'il en coûte ». Mais qu'en est-il aujourd'hui de la vision qualitative?
Eh bien, le qualitatif, j'ai l'impression qu'il a disparu. Ce texte est toujours d'actualité, 2018, on pourrait changer la date. Et donc, on voit bien ce que disait Ortega y Gasset dans La révolte des masses, en lisant ce préambule, que l'homme masse, l'homme vulgaire, l'homme médiocre, l'homme sans idéal, qui ne convoque pas la morale, qui n'a pas de projet de société, c'est en fait l'homme satisfait de lui-même. Et donc c'est l'individualisme qui s'impose à nous, c'est l'égoïsme, bref, la vulgarité. C'est le règne, je l'assume pleinement, plus que jamais aujourd'hui, le règne des technocrates, des techniciens incultes, parfois sauvages, qui n'ont pas de projet politique ni de projet social. Et une société, pour faire société, pour faire institution, on a besoin, en effet, d'humanité et on a besoin de valoriser ce que nous faisons de bien. Et ce bien commun, comment nous le fabriquons, comment nous faisons société, et comment nous faisons de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire gérer les biens communs qui doivent être partagés. Donc toujours, texte d'actualité, je prends toujours les précautions oratoires, hein, parce que dans notre secteur, nos auditeurs le savent et les professionnels le savent, la Haute Autorité de la Santé a créé, après discussion, un référentiel pour évaluer les établissements sur la qualité. J'aurais préféré le terme « valorisation sociale et sociétale ». Est-ce que ce que nous faisons est utile à la société? Est-ce que ce que nous faisons est utile aux familles qui souffrent, aux enfants, à tous ceux qui ont des fragilités, des vulnérabilités? Et donc, à travers cette question de la vulnérabilité, mais là, je peux paraphraser, cela a été dit par beaucoup de philosophes et sociologues, l'humanisme du 21e siècle est l'humanisme de la vulnérabilité universelle, quoi. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes tous en pleine forme, mais demain, l'accident, une pandémie, un AVC, une crise cardiaque, et nous voilà fragiles, et nous voilà où nous pouvons basculer dans la pauvreté, dans la précarité, etc. Et donc, nous avons besoin, plus que jamais, d'une société solide et solidaire. Solidaire, c'est solidus. Oui. En latin, c'est ce qui est dur, c'est ce rocher auquel nous pouvons nous accrocher quand il y a des tempêtes. Eh bien, la société et nos associations doivent faire cela. Ce sont ces corps intermédiaires nécessaires pour faire la société.
Oui, mais je pense, si tu veux, que la vulnérabilité, il n'y a pas besoin forcément d'attendre un accident particulier de la vie au niveau de notre rapport à la survivance. Je pense qu'elle est inscrite à l'intérieur même de nos éprouvés. Parce qu'il me semble que mettre en évidence nos valeurs de justice et d'humanisme résume bien la lourde tâche de la fonction parentale d'une société d'adultes face à l'infantile encore brut des enfants. Et ce sont souvent les défaillances de parentalité qui sont mises en musique et que chantent les chansons d'amour. Je voudrais d'ailleurs te faire écouter une des chansons de Yusunna qui s'adresse autant à l'infantile qu'au parental. Elle chante « Hé, petit oiseau, envole-toi vers la maison. Ta maison est en feu. Les enfants sont seuls. Et je marche sur la queue du diable à travers les rayures d'une tête de pleine lune. Je suis dans le coin sous la pluie battante. »
$2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. 60 men in the dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. 2 pairs of pants and a mohair vest. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. She flipped book about Ella Morgan's head, and I'm stepping on the devil's tail. Across the stripes of a full moon's head, and through the bars of a Cuban jail. Black lip fingers on a purple knife, flamingo drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife. At mother view from up on top of the mast. Hey, little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. To the convoy is what she said. $100 makes it dark inside. Edna Million in a drop dead suit. Dutch pink in a downtown train. $2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. Hey, little bird, fly away home. My house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away.
Alors Andrés, comme tu viens de le dire, pour mettre en évidence une parentalité qui vient soutenir nos valeurs de justice et d'humanisme, Il faut communiquer, il faut informer, dire ce que l'on fait, pas seulement ce que l'on pense, pas seulement du yaka faucon. Toujours dans le numéro de mars 2018, il y a un article passionnant de Martine Touré, chef de service de l'accueil commun joie, et de Charlotte Roura, psychologue clinicienne. Il s'intitule « Émergence des possibles entre complexité et singularité ». Cet article rend compte d'une expérience vécue dans la rencontre avec ceux qu'en France on appelle les MIE, mineurs isolés étrangers. Alors que leur nomination officielle au niveau européen, au Canada et aux États-Unis est celle de MMNA ou MENA pour mineurs migrants ou mineurs étrangers non accompagnés. La nuance est importante, nous disent-elles, car le terme français suggère que l'enfant isolé est sans lien, alors que le terme générique de non accompagné évoque plutôt l'absence, peut-être temporaire, d'un référent adulte. On est bien au cœur de l'infantile et du parental. La sociologue Angelina Etiamble, spécialiste de l'immigration, distingue dans la diversité des configurations de vulnérabilité chez ces jeunes les exilés qui fuient les guerres et les conflits ethniques, les mandatés qui sont envoyés par leur famille imprégnés d'un espoir d'ascension individuelle et collective, les exploités, victimes de tout un panel de violences, en particulier de la part de passeurs pervers, les fugueurs, qui fuient la maltraitance intrafamiliale, et enfin les errants, qui vivaient déjà à la rue dans leur pays. Mais tous vivent le drame de l'exil. Porteurs de leur cadre culturel d'origine, ils découvrent le mode de vie sociétal anonyme et atomisé de notre société occidentale. Ils se trouvent confrontés à une individuation impuissante face à un monde plein de contresens qui est à l'opposé de ce que leur imaginaire avait construit. Compte tenu de l'histoire de ta famille, comment vois-tu l'élaboration de ce traumatisme, Andrés ?
L'immigration, l'exil est un traumatisme réel. Et il y a des problématiques de santé mentale hein, pour l'ensemble des immigrés. Dans la segmentation qui est faite du point de vue sociologique, hein, les fugueurs, les mandatés, etc. Hein. Prenons l'exemple des mandatés. Les familles qui disent « va ailleurs ». Tente ta vie en Europe, la famille se cotise souvent pour payer le passage. Et cette personne-là qui arrive en Europe doit ensuite envoyer de l'argent à la famille. Et s'il ne réussit pas, c'est la totale humiliation. Et ces jeunes-là ne reviennent jamais dans leur pays. Ils ne peuvent pas se présenter devant leur mère, leur père, leur cousin. On attendait tous deux et ils n'ont pas réussi. Donc vous imaginez déjà le traumatisme. Donc. Ils vivent dans le mensonge. Alors pour ceux qui fuient et qui pensent qu'il y a de la lumière et que cette lumière est possible. Mais je vous donne un exemple de comment ma famille a vécu cela. Mon père avait immigré du sud de l'Espagne. Et on lui avait dit, oh, tu verras, en France, il y a du travail pour tout le monde. C'est facile, tu verras, il suffit de se baisser et tu pourras recueillir les fruits du travail. Eh bien, moi, j'ai souvenance de jeunes adolescents, pendant 2 ans, nous avons vécu dans un garage. Avec toute la promiscuité, 7 enfants, père et mère. Un garage, d'ailleurs, je me souviens très bien, c'est très vivant, avenue du Muret, à Toulouse, avec tout ce qui va avec. Nous allions à l'école, mais en cachette. Et c'était des enseignants qui prenaient des risques. Des enseignants prenaient des risques pour faire la classe. nous ne sortions pas aux mêmes heures à la récréation pour ne pas se mélanger aux autres enfants qui pourraient parler aux familles. Donc même à l'école, nous étions des clandestins. Donc il faut vivre cette notion de clandestin, vous n'existez pas. Vous êtes un clandestin, vous n'existez pas, vous êtes un invisible, voilà. Parfois vous ne mangez pas, bien entendu, à la fin. C'est pas vieux, ça. C'est 1969. C'est pas vieux.
Et ça reste d'actualité.
Et ça reste d'actualité, voilà. Et puis, c'est la rencontre. Et ce que l'ANRAS permet, à travers l'ensemble de ses services, c'est qu'il y a des gens qui vous tendent la main. Il y a des gens qui vont ouvrir un espace. J'utilise cette phrase un peu poétique, ouvrir une brèche dans le réel. C'est-à-dire, ils ouvrent un espace, ils venaient, je vais vous accueillir, on va faire un bout de chemin ensemble, etc. Mmh. Et moi, j'ai eu la chance de croiser, dans cette période, un certain nombre de personnes qui nous ont ouvert les portes, qui prenaient donc des risques, hein, bien évidemment, et qui nous ont offert un espace, qui nous ont offert le couvert, qui, de temps en temps, pouvaient nous offrir une table, deux chaises et une gazinière pour pouvoir s'installer. Et puis, il y a eu des rencontres à l'école. J'ai rencontré des maîtres à l'école primaire. C'est-à-dire un vieux maître avec la blouse grise et qui respectait éminemment ma culture. Et de cette période, j'ai souvenance qu'il utilisait volontiers une sorte de métaphore florale. En disant, pour que l'arbre, pour que la fleur, pour que la plante puisse bien se développer dans un terreau nouveau, qui est la France, il faut préserver vos racines. Et donc, il faut des racines. Donc, qui enracine dans ce terreau républicain pour pouvoir se développer? Mais encore faut-il être fier de vos racines. Et là, j'utiliserai par la suite, bien volontiers, cette phrase d'Ernest Renan, « Je ne suis pas français. » Comme on dit de souche, « Je ne suis pas né dans ce territoire. » Mais il disait, « Je ne suis pas français, mais la France coule dans mes veines. » Mais qu'est-ce qui coule dans mes veines? C'est en fait les valeurs de la République. C'est ça qui fait la société, et c'est ces valeurs d'humanisme que j'essaie de transmettre à travers toutes les actions et l'action que j'ai eue en tant que directeur dans cette association.
En reprenant la métaphore végétale, on peut dire que c'est la greffe.
C'est la greffe.
C'est la question d'une greffe.
Voilà. Et la greffe peut prendre à condition qu'il y ait la bonne santé, que ça soit bien fait.
Qu'il y ait de la sève.
Voilà. Qu'il y ait de la sève, etc.
Voilà. Alors, en France, l'isolement d'un mineur s'entend du point de vue juridique, alors même que le mineur en question peut être en lien avec beaucoup de monde d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire. Mais n'ayant pas de représentants légaux, ils n'ont personne qui assure l'autorité parentale et qui peut, au sens de la loi, veiller sur eux, assurer leur bien-être, leur éducation. C'est donc face à l'intensification des mouvements migratoires et suite au démantèlement de la jungle de Calais que l'ANRAS s'était porté volontaire pour gérer deux centres d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés. En acronyme, c'est ce qu'on appelait les CAOMI. L'un en Ariège, l'autre en Haute-Garonne. Ce sont 52 jeunes mineurs qui ont été accompagnés par une équipe pluridisciplinaire et des bénévoles. C'était prévu pour une durée de 3 mois durant l'hiver 2016. Ce déplacement, les jeunes le vivaient-ils comme un besoin de protection ou comme une obligation de protection qui leur était imposée?
Ah, c'était une obligation.
Sur les 52, 7 ont pu gagner le Royaume-Uni et 17 fugues ont été déclarées. Les autres ont été orientés vers des lieux plus durables. Ces jeunes qui relèvent d'une double législation, celle de la protection de l'enfance qui est de droit commun et qui est la compétence des départements, et celle de l'immigration qui est de compétence plus nationale, voire européenne, sait-on ce qu'ils sont devenus?
Ah oui, on a quelques exemples, et d'exemples de réussite. Le parcours est très difficile parce qu'il n'y a pas d'enquête précise, mais on a quelques parcours. Et il faudrait peut-être un jour qu'on lance des enquêtes dites longitudinales, quoi, hein, pour connaître les parcours. Mais on peut quand même déjà émettre quelques parcours. Il y avait beaucoup d'Afghans qui avaient trouvé, qui d'ailleurs trouvaient que le déplacement de la lande de Calais, la jungle, comme il disait, la jungle de Calais vers des sites comme les nôtres, c'était déjà, c'était encore un traumatisme, parce qu'ils ne voulaient pas rester en France.
Oui.
Ces jeunes-là, il faut savoir...
Ils veulent aller en Angleterre.
Ils veulent aller en Angleterre. La France ne les fait pas rêver, ce qui est d'ailleurs problématique. Je pensais que la France faisait rêver. Non, elle ne fait plus rêver la France. C'est ça qui est problématique aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il y a aussi, il y a aussi la langue.
Voilà. Hein, et qui, bien sûr.
L'anglais est en...
Et donc, ces jeunes-là... et puis ensuite, dans le démantèlement de la jungle de Calais, nos amis britanniques, il faut le dire aujourd'hui, parce que 2017, 2017, 2018... Pourrait-on dire à prescription, mais il faudra quand même que tout cela soit dans l'histoire. Les Britanniques n'ont pas joué franc jeu avec ces jeunes, parce qu'on avait promis qu'on allait étudier leur cas. Et il y avait des jeunes qui avaient des attaches en Angleterre, parce qu'il y a des parents éloignés, des familles éloignées. Et pour ces personnes-là, la question de la tribu... C'est élastique, quoi, quand on parle de la famille.
Absolument.
Hein, rien à voir avec ce que nous.
C'est la on famille parle à l'africaine. Famille,
c'est une famille africaine, une famille très élargie, le grand-oncle, etc. Et donc, ces jeunes-là ont vécu également dans le mensonge des adultes.
C'est ça.
On leur avait promis des choses qu'on n'a pas tenues. Donc, vous imaginez, difficultés d'où, les fugues, etc. Et puis, ceux qui ont réussi aujourd'hui, alors quelques-uns, parce que on a des nouvelles, de temps en temps, ils nous passent un coup de fil. On a un jeune Afghan qui est aujourd'hui boulanger, il a réussi son CAP de boulangerie, il travaille comme boulanger dans la région toulousaine. On a d'autres qui ont réussi parfaitement le CAP de maçon plaquiste, hein, on appelle des plaquistes aujourd'hui, donc ils travaillent dans le bâtiment. Un autre qui est maçon, un autre qui est peintre, un autre qui travaille dans la métallurgie et donc il est métallier. On a même un jeune qui a été pris... du meilleur apprenti de France pour la région Occitanie. Donc, vous voyez bien que ces jeunes, quand il y a une main tendue, quand il y a un espace... parce qu'on parle aujourd'hui de sécurité, mais aussi d'autorité. Un espace de sécurité, un espace d'autorité, un espace où les règles sont définies, mais en même temps, où de façon concomitante, on est à l'écoute... Eh bien, au bout du bout, il y a le succès.
En tout cas, je confirme que l'article de la revue témoigne de cette clinique d'accueil, même sur une temporalité très courte, qui est pleine d'humanité et qui permet certainement que pour tous ces jeunes dont tu viens de parler, ils aient pu effectivement trouver leur place dans notre société. Dans l'article... Il y a d'abord le rôle primordial de l'infirmière dans le rapport au corps. Les soins corporels amorcent la prise de conscience de ce qu'on appelle le care. Étonnamment, ils viennent se peser quasiment tous les jours. Est-ce un besoin de prendre conscience de sa consistance, se demandent Martine et Charlotte. Le fait de ne plus avoir à se préoccuper des besoins corporels de survivance... Savoir où dormir, avoir de quoi manger, se sentir protégé des agressions et des menaces extérieures de toutes sortes, Martine et Charlotte constatent que cela fait ressortir des angoisses majeures jusque-là réprimées. Les angoisses majeures de nature identitaire. Alors je voudrais partager avec toi et les auditrices et les auditeurs un petit passage d'un chant que Yu Sunna chante en français dans son album Voyage, qui pour moi est le drame de l'immigration. C'est le drame de l'exil qui est la perte charnelle, charnelle de sa terre natale. Thank you.
toi qui me parles-t-elle? Et toi qui me dis tout? Que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait. Toi qui me parles d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras-t-elle maintenant disparue?
Chanson de ma terre lointaine, maintenant disparu. Martine et Charlotte réalisent que l'identité personnelle est le produit de la parentalisation sociétale. C'est un processus qui s'effectue de manière continue tout au long de la vie et qui se modifie en fonction des passages traversés. L'article cite le sociologue Claude Dubard qui souligne que la migration conduit à ajouter au schéma identitaire un palier supplémentaire, celui d'une identité globale insoupçonnable, celle de l'humanité de l'homme et la part universelle de sa culture, la Mésopotamie. Les autrices parlent alors d'accompagnement métaculturel et j'ajouterai pour une construction méta-identitaire. La méta-identité, n'est-ce pas celle qu'on se construit pour englober toutes nos identités d'appartenance et pouvoir enfin soutenir notre libre arbitre, prendre sa vie en main. Qu'en penses-tu ?
L'identité, elle est multiple. Et justement, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que l'identité serait le repli. Là, c'est tout à fait l'inverse. L'identité, c'est l'ipséité, c'est la présence de soi. L'ipséité, c'est ce rayonnement. Certes, peut-être qu'on aborde là des questions dites métaphysiques, mais...
Méta-identité, méta-culture, c'est bien métaphysique,
c'est bien,
en reste.
C'est bien de la métaphysique, quoi. Et donc, il faut faire de la philosophie. Oui. Ça veut dire que dans notre secteur dit du social ou du médico-social et du sanitaire, il faut penser plus que jamais. Et il faut penser les identités, comme il faut penser l'identité du patient, comme il faut penser l'identité du médecin, l'identité du psychiatre, l'identité de l'éducatrice, etc. Mais elle est multiple.
Mais oui.
Et elle se nourrit. Et elle se nourrit en fait de quoi ? D'un certain nombre de circonstances, c'est-à-dire d'occasions, mais y compris d'échecs.
Oui.
Et l'échec a une vertu qui est l'apprentissage. On apprend parce qu'on se trompe.
Alors, par rapport à ça, on abordera tout à l'heure la nouvelle émission que tu prépares et qui, je crois, va passer jeudi. Et qui, on l'abordera tout à l'heure et je le réserve pour les auditrices et les auditeurs. Parce que, pour l'instant, si je reste sur l'article de Martine et de Charlotte, elles réalisent qu'il faut des activités de plaisir pour se reconnecter à l'instant, Andrés. Elles disent, une équipe disposant d'une grande humanité peut s'exposer à inventer, à bricoler, au sens de Lévi-Strauss, des modalités relationnelles, source de résilience et de créativité. Je les cite. La créativité, c'est faire feu de tout bois. C'est oser s'ouvrir à l'inconnu, au jamais vu, jamais pensé. Si je crée, c'est que j'accepte qu'émerge de moi ce qui n'a encore jamais été révélé. Quelque chose qui n'imite rien, qui n'est nécessité par rien d'autre qu'une alchimie, qui constitue notre manière d'être au monde en lien avec les autres. C'est peut-être pour ça, effectivement, que tu interrogeais dans le titre « Valorisation de l'utilité sociale et sociétale ». Je crois qu'on peut travailler la dialectique, que l'inutile est utile.
L'inutile est utile. Et c'est pour cela que la moindre ou la petite action a un effet.
Exactement.
Et toute action éducative, c'est pour ça que nous dans notre, dans la formation, on parle de bricolage. Parfois, oui, il faut bricoler l'éducatif. Mais que faisons-nous dans notre vie? Comment construisons-nous notre vie? On bricole. C'est-à-dire, on tâtonne. Mais le chercheur tâtonne, et c'est au bout de ce tâtonnement, parfois, que la surprise apparaît et que l'on découvre. Je ne crois pas que l'on, que le scientifique va recueillir les faits comme on pourrait cueillir des champignons ou des fleurs. Peut-être, Bertrand, cette fameuse phrase de Gaston Bachelard, les faits sont faits par le savant. C'est-à-dire, on les fait parce que il y a une conjonction d'éléments, parce que il y a une histoire. Voilà, le fait est fait, voilà, mais il n'y a pas d'effet qui se trouverait là, une sorte d'ectoplasme. Les faits sont des indicateurs d'analyse. Et puis, il y a malheureusement des faits qui nous déplaisent, mais qui sont là et qu'il faut faire avec. Et c'est en ce sens que dans notre relation humaine, il y a du bricolage, comme dans l'amour. Il y a du bricolage. Et je voulais, pour parler de cet amour et du bricolage, te proposer une diva. Il y a quelques divas, et cette diva, elle est formidable. Dès qu'on entend sa voix, on tombe amoureux. Voilà, comme une sorte de gouffre. Hein, on peut pas, voilà, on plonge, hein, c'est cela. C'est peut-être cela l'amour, c'est du bricolage total. C'est Luz Casal.
Exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Cada día se va muriendo la flor de tu agonía. ¿A dónde va nuestro amor? Cariño mío, si donde hubo los sueños que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altivez. Creemos ser felices y reñimos 30 veces cada mes. ¿A dónde va nuestro amor?
Alors, quand on parle d'amour, Andrés, En tant que pédopsychiatre, je peux pas ne pas penser à l'amour vertical, à l'amour difficile du parental face à un infantile parfois difficile qu'il faut accueillir et qui nous bouscule. Et donc, je voudrais te lire la lettre ouverte au président de la République et au Premier ministre qu'a adressée Bernard Golz, professeur de pédopsychiatrie et président fondateur de l'Institut contemporain de l'enfance. Il écrit « L'enfance est-elle vraiment une problématique prioritaire ? Nos enfants et notre jeunesse souffrent. Comment les protéger et leur permettre de s'épanouir ? L'État ne peut pas et ne doit pas se limiter à se prémunir face à un enfant perçu comme dangereux. Au contraire, il doit s'occuper des enfants vulnérables, car s'ils sont dangereux, c'est qu'ils sont en danger. Les enfants ressentent de plus en plus la société comme une source de menace. La situation de la pédopsychiatrie en France est catastrophique. La biologie et les neurosciences ne résumeront jamais à elles seules le tout du vivant. Une pédopsychiatrie humaniste est plus que nécessaire. Les services de l'aide sociale à l'enfance et les lieux d'accueil pour les tout-petits devraient être une priorité absolue. L'éthique d'une société se mesure à l'aune de l'attention qu'elle apporte à ses membres les plus fragiles. À propos de l'école, le statut des AESH, auxiliaires pour les élèves en situation de handicap, est dramatique. Leur formation en matière d'autisme est totalement insuffisante. Le fait de noyer les troubles du spectre autistique dans les troubles neurodéveloppementaux dilue la problématique si spécifique de l'autisme. Les professionnels de l'enfance n'ont pas choisi leur métier pour protéger la société du désordre des enfants qu'elle produit, mais pour offrir des espaces protégés aux enfants, compte tenu de la complexité du monde et de ses dangers. Pour leur donner le temps de vivre pleinement leur enfance et d'avoir envie eux-mêmes un jour d'avoir des enfants. De plus en plus d'adolescents disent ne pas en vouloir. C'est un signal fort que nous ne pouvons pas ne pas entendre. Cette lettre est un cri d'alarme. Le temps de la petite enfance et le temps des politiques ne sont pas les mêmes. Il y a urgence. Fin de la lettre. Alors Andrés, tu as démarré une nouvelle émission intitulée Kairos avec Régis Thomas, enseignant-écrivain, je crois qu'elle passera jeudi, pour parler justement philosophie. Je ne connaissais pas bien ce terme grec. J'ai donc compris que le kairos, c'est l'instant T, le bon moment qu'il faut saisir avant qu'il ne passe. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Ce temps kairos est une incise dans Chronos, le dieu du temps qui s'écoule, celui inexorable du temps de l'horloge, qui scande l'existence de tout être mortel. Et puis, il y a aussi Aion, le temps cyclique, qui revient, comme la roue qui tourne, sans jamais repasser au même endroit. D'ailleurs, quand justement Martine et Charlotte évoquent que leur accueil doit laisser libre cours à leur rencontre avec ces jeunes pour que ça roule, pour que ça tourne, comme elles disent, quand on est directeur d'un établissement, comment ne pas avoir peur des sorties de route ?
Oui, ben on a, oui, il y en a malheureusement des sorties de route, mais pour cette émission de philosophie Kairos, les Grecs, ils avaient compris l'intuition de ce monde, ils avaient l'intuition du monde, et ils habitaient le monde, ils savaient habiter le monde, nous avons oublié de cela. Dans toute action humaine, il faut savoir qu'il peut y avoir des dérapages, mais... et des erreurs, et souvent des erreurs manifestes. Mais la première leçon qu'on peut tirer, c'est que quand il y a des erreurs, il faut assumer ces erreurs. C'est cela la responsabilité. Il faut assumer les erreurs quand ça ne va pas, et il faut assumer les erreurs jusqu'au moment de rendre compte, c'est cela la responsabilité, ça veut dire que ça peut aboutir jusqu'à la démission. Et donc, il est important de maîtriser la question du temps dans le travail que nous faisons, éducatif, social. Mais nous sommes dans le paradoxe. c'est que nous vivons dans cette immédiateté, nous vivons dans la question financière et comptable, etc., et des objectifs qu'il faut atteindre. L'exemple de ces fameux centres où nous avons accueilli les jeunes, la puissance publique nous avait dit, c'est 3 mois, 4 mois, ça doit être réglé. Voilà, ça doit être géré, le terme « géré ». C'est terrible ce terme gérer. On gère tout aujourd'hui. On gère sa vie sentimentale, on gère un centre de formation, on gère tout. Non. Dans une vie amoureuse, on aime quelqu'un ou on ne l'aime pas, on ne le gère pas. Dans une relation de travail humain avec les enfants, la lettre que vous venez de lire montre bien que les sciences cognitives et comportementales ne vont pas tout résoudre, parce qu'il faut du temps. Et ces jeunes-là avaient besoin du temps. De temps pour construire, de temps pour voir, etc. Voilà, vous voyez ?
Ne penses-tu pas que si on s'adresse à l'enfant, c'est pas forcément le professionnel qui fait une sortie de route, c'est l'enfant qui fait une sortie de route. Et ce que je trouve compliqué souvent aujourd'hui par rapport à la parentalité, c'est qu'on n'ose plus accompagner l'enfant dans la culpabilité. Et que je pense qu'il faut d'abord éprouver la culpabilité pour pouvoir ensuite entrer dans la responsabilité.
Tout à fait.
Et que ça, c'est très important comme soutien éducatif. Hein, et peut-être qu'il y a eu des générations antérieures où on a été trop culpabilisé. Et là, on touche un problème important sur la question de la culpabilité qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais qui fera peut-être l'objet d'une autre émission, par rapport à la question d'une culpabilité inscrite dans les monothéismes.
Mais Bertrand, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de dire qu'avant c'était mieux.
Ah, je ne dis pas. Non, hein, justement, je pense qu'on a été trop culpabilisés et sans pouvoir justement en faire une responsabilité secondaire. Parce que la culpabilité primaire, c'est pourquoi serais-tu coupable si tu ne sais pas que tu fais mal ?
Voilà.
Donc la culpabilité qui ne peut se vivre qu'à l'âge adulte, c'est quand je sais que je fais mal et que je le fais quand même. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle la culpabilité secondaire.
Tout
celle-là,
à fait.
Elle est justiciable.
Tout à fait.
Mais la culpabilité primaire de l'infantile, elle est légitime. Elle rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire la nécessité de faire des fausses, des sorties de route et de faire des erreurs pour pouvoir justement progresser.
Pour pouvoir construire et progresser.
Absolument.
Et rappeler à la responsabilité. En revanche, le discours général qu'on tient aujourd'hui, et y compris dans la bouche de notre Premier ministre, dans son discours de politique générale, pour la nation, en disant qu'il faut de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité. Vous voyez, l'autorité, ça ne se décrète pas. Il faut de l'autorité comme si un coup de menton, on bombe le torse et tout d'un coup, tout se décrète. Non, l'autorité, ça se construit. Ça se construit par la compétence, ça se construit
par
parce qu'il y a
confiance.
Par la confiance.
Par la confiance.
Et dès qu'un enfant a perdu toute confiance, voilà.
Et
la même chose dans l'opposition. On n'oppose pas aujourd'hui la notion de pédopsychiatrie humaniste et l'apport des sciences.
Non.
Mais il n'y a aucune opposition.
Mais non.
Mais penser que les sciences dites cognitives, comportementalistes vont résoudre tout, disant nous allons jeter aux orties les autres sciences humaines, c'est une erreur fatale pour nos métiers. Et donc il y a bien une hybridation. Il faut faire rencontrer. Il faut qu'il y ait le terme pompeux, peut-être, philosophique. Il y a en effet de l'épistémologie à faire sur les sciences humaines pour qu'elles puissent se parler et aborder les questions fondamentales de notre monde contemporain.
Alors, tout à fait. Pour continuer encore avec ces scansions différentes de temps, hein, on évoquait le temps de la petite enfance, mais il y a aussi le temps de l'adolescence qui touche tous ces jeunes dont on vient de parler. Et ce temps de l'adolescence est différent du temps des adultes. Je voudrais, avant de terminer cette émission, lire une lettre qui a été écrite en 1991 au cours d'une semaine d'information sur la santé mentale. À la suite de nos débats, des lycéens en classe de philosophie avaient souhaité écrire une lettre ouverte adressée aux adultes. Je la lis. Si la santé mentale peut se définir par une mentalité en mouvement, alors nous, jeunes d'aujourd'hui, nous attendons de nos aînés qu'ils nous aident à faire bouger cet ensemble d'habitudes intellectuelles et de croyances, car nous voulons un nouveau projet de société. Liberté, égalité, fraternité sont les valeurs républicaines et démocratiques qui ont fondé le socle de ce projet depuis 2 siècles. Mais aujourd'hui, notre société est en crise, comme une adolescence, et ces valeurs ne portent plus nos espoirs. Nous voulons nous les réapproprier pour définir un nouveau projet de vivre ensemble dans lequel nous pourrons nous investir. Liberté. Nous défendrons avec toute notre énergie la liberté qui est une valeur d'individuation. Mais si la liberté n'est que cela, elle conduit au repli sur soi et aux séparations. Serons-nous capables, si vous ne nous aidez pas, de nouer des engagements dans la confiance ? Égalité. Nous défendrons avec toute notre énergie l'égalité de l'individu, l'égalité des hommes et des femmes, parce que l'égalité est une valeur de respect. Mais si l'égalité n'est que cela, elle conduit à la confusion du familier et de l'étranger, à la confusion des sexes et à l'uniformité. Serons-nous capables, si vous ne nous aidez pas, de penser l'égalité dans la différence ? Fraternité. Nous défendrons avec toute notre énergie la fraternité, qui est une valeur de convivialité et de solidarité. Mais votre fraternité d'adulte n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas encore capables d'accéder à la parentalité, mais vous si. Nous avons besoin de parents qui nous montrent la voie d'une liberté dans l'engagement, d'une égalité dans la différence, pour pouvoir vivre notre fraternité sans trop de rivalité, car notre fraternité n'est pas la vôtre. Parentalité pour la liberté de s'engager, parentalité pour l'égalité dans la différence, fraternité pour les adultes. Qu'en penses-tu ?
D'abord, c'est un très très beau texte d'une grande maturité. Il faut que nos enfants sachent que quand il y a une difficulté, quand ils sont confrontés à une difficulté, nous, on est là, on est présent, on est au rendez-vous. J'ai peu eu à intervenir dans l'éducation de mes enfants quand ils avaient des difficultés, quand l'essentiel était convoqué, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi et sur, bien entendu, mon épouse. Et c'est la même chose pour les éducateurs. Parfois, la simple présence, le fait d'être là, de marquer les enfants dans la relation de confiance, dès qu'il y a une difficulté, ils savent qu'ils peuvent aller chercher l'adulte et que l'adulte, à ce moment-là, il faut qu'il soit au rendez-vous. Si nous ratons ce rendez-vous, on rate l'acte d'éducation.
Tout à fait. Alors avant de nous quitter, je propose encore quelques notes d'une dernière chanson de Yoon Sun-na qui est intitulée « My Bye », mon au revoir. Alors merci Andrés pour ta participation à cette émission et puis merci à Radio Esprit Occitanie parce que je pense que les médias jouent un rôle de caisse de résonance pour nous qui essayons d'être des lanceurs d'alerte. Je me demandais d'ailleurs s'il fallait des influenceurs sur les réseaux sociaux pour faire bouger les mentalités sur l'infantile et le parental. Alors, pour les auditrices et auditeurs qui sont intéressés de poursuivre la réflexion sur les processus d'humanisation, j'informe que le groupe de recherche pour l'éducation et la prospective, le GREP, en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, m'a invité à parler de la sororité néandertalienne et de la naissance de l'humanisation à l'occasion du mois de l'égalité femmes-hommes et de la Journée internationale pour les droits des femmes. Ce sera le vendredi 1er mars à 12h30. L'entrée à l'amphithéâtre du muséum est gratuite. Nous nous retrouverons ensuite dans l'émission des passages. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Et merci Bertrand.
Se pensi che gli anni non hanno da finire, bisogna morire, bisogna morire.